Chers frères et sœurs, le thème que la parole de Dieu nous propose aujourd'hui est extrêmement délicat. C'est le thème de la correction fraternelle. Nous avons entendu dans la première lecture le prophète Ézéchiel qui nous dit que nous sommes, Dieu qui nous dit que nous sommes guetteurs pour avertir le méchant. Et si nous ne l'avertissons pas, nous subirons la même peine que lui. Et dans l'Évangile, il est question de la correction fraternelle dans l'Église. Une procédure de règlement de conflit que le Christ propose, qui n'est pas à suivre forcément à la lettre, parce qu'il faut toujours comprendre d'abord l'esprit avant la lettre, parfois changer la lettre si l'esprit l'exige. Alors ce thème est extrêmement complexe parce que c'est un thème très sensible qui provoque souvent des blessures et nous savons combien nous sommes malhabiles dans cet art de la correction fraternelle. Moi, le premier qui vous parle, j'en suis peut-être totalement incapable, mais je vais au moins essayer de réfléchir ensemble avec vous à ce sujet. La première chose qu'il faut voir par rapport à ces paroles du Christ sur la correction fraternelle, c'est qu'elle se situe dans un contexte de miséricorde. On doit toujours, quand on prend une parole de l'Écriture, la resituer dans son contexte. Et le contexte de cette parole, c'est la miséricorde. Juste avant cette parole, il est question de la joie du Père pour le retour de la brebis égarée. Et juste après cette parole du Christ, il est question du pardon. Tu pardonneras 77 fois à ton frère quand il t'aura offensé. Bref, la correction fraternelle doit toujours avoir pour contexte la miséricorde. Si vous extrayez la correction fraternelle du contexte de la miséricorde, vous en faites une œuvre diabolique. Je pèse mes mots, c'est une œuvre diabolique. C'est-à-dire que la correction fraternelle, sans un esprit de miséricorde, finalement, consiste à tuer l'autre en lui montrant qu'il est incapable de faire le bien. La communauté des frères et sœurs que nous sommes, l'Église, l'Église domestique qui est la famille, toute communauté, même l'entreprise, tout cela, ce sont des communautés qui sont vouées à être des communautés d'amour. Là, vous me direz, dans l'entreprise, c'est souvent plus un panier de crabes, une communauté d'amour. Mais voilà, c'est comme ça. Le Seigneur nous invite tous à essayer, à la mesure de nos moyens, d'essayer de faire que toute communauté soit une communauté d'amour et de respect. Et quand qu'un répond à Dieu qui lui demande « Où est ton frère ?» qu'il vient d'assassiner d'ailleurs, il répond à Dieu « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mon frère fait ce qu'il veut, moi je m'en fous, c'est pas mes oignons. « Suis-je le gardien de mon frère ?» C'est pas l'attitude que le Seigneur nous demande d'adopter. En même temps, être le gardien de son frère, c'est pas être un tyran qui cherche sans cesse la petite bête et les poux dans les cheveux de son frère pour l'étouffer et l'écraser. Être le gardien de son frère, ça demande au contraire de pleinement respecter la liberté de son frère et de la valoriser. C'est ça qu'il faut bien comprendre, parce qu'on croit souvent qu'être le gardien de son frère, c'est le verrouiller dans une prison, dans la prison de nos jugements et de nos condamnations. Non, être le gardien de son frère, c'est l'aimer et l'aider à être libre. Dans l'Évangile, Jésus dit « Si ton frère a commis un péché contre toi », il ne s'agit pas d'un petit péché ici, il ne s'agit pas de... Il a oublié de me faire un sourire ce matin, de me dire bonjour, de me demander comment ça va. Ce n'est pas ce type de péché dont il s'agit d'un péché grave. « Si ton frère a commis un péché contre toi ». Ce que le Christ nous demande dans la correction fraternelle, c'est du doigté, de la finesse, l'esprit de finesse, de l'humilité. On ne peut pas corriger son frère si on n'a pas conscience soi-même qu'on est grand pécheur. Rappelez-vous la paille et la poutre. De la douceur. La correction fraternelle ne se fait pas parce qu'on est mu par la colère, parce qu'on est mu par un désir de revanche. La colère peut accompagner la correction fraternelle, mais ce n'est pas la colère qui motive la correction fraternelle. C'est le bien de l'autre. C'est peut-être subtil, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si la colère est le motif de ma correction fraternelle, ça veut dire que je corrige l'autre pour apaiser ma colère. Et si je corrige l'autre pour apaiser ma colère, je cherche mon bien à moi et pas le bien de l'autre. C'est ce que saint Thomas d'Aquin appelle un amour de concupiscence. Bon, très bien, nous, on ne peut pas être complètement délivré de l'amour de concupiscence parce qu'on est obligé de se faire du bien à soi-même. Mais il faut toujours d'abord viser le bien de l'autre. Autrement dit, la colère ne peut pas être le motif de la correction fraternelle, même si elle peut l'accompagner. Le courage, parfois il est plus facile de se taire, c'est ce que dit le prophète Ézéchiel, il est plus facile de se taire, voilà, de ne rien voir, de faire l'autruche. Ça demande du courage. Faire une correction fraternelle, ce n'est jamais dire à quelqu'un ses quatre vérités. Quand je dis à quelqu'un ces quatre vérités, je suis du côté du diable, c'est très clair. Je suis diabolique. Le Seigneur ne nous dit jamais nos quatre vérités, jamais. Parce que s'il nous le disait, nous serions désespérés à vie. Nous serions complètement découragés. Si le Seigneur nous disait à quel point nous sommes pécheurs, nous n'aurions plus aucune espérance sur nous-mêmes. Donc quand on dit à quelqu'un ces quatre vérités, ça veut dire qu'on va lui dire tout ce qui ne va pas chez lui. Ben non, ça ne doit pas fonctionner comme cela, parce que vous l'écrasez à ce moment-là. Faites dire à quelqu'un ces quatre vérités, c'est le tuer, c'est un meurtre. C'est un mensonge. Autrement dit, parfois on peut dire, ben, je suis factuel. Je dis, tu as fait ça, oui, il a fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, je suis factuel. Sauf que s'il n'y a pas d'esprit d'amour dans cette factualité est un mensonge. Le diable cherche à nous pousser à faire des corrections fraternelles violentes, destructrices. Il cherche à nous faire pécher et ensuite à nous désespérer sur nous-mêmes ou sur les autres. La résolution donc, d'un conflit qui est lié à un péché, donc qui exige une correction fraternelle, qui exige qu'il y ait une vérité qui soit dite. Il faut qu'il y ait une vérité qui soit dite pour que le péché soit guéri. Le Seigneur nous dit que ça doit fonctionner par étapes. Alors le Seigneur nous propose différentes étapes dans l'Évangile. Ça veut dire qu'il doit toujours y avoir une graduation des moyens. Et la première chose dans la graduation des moyens, c'est que quand on corrige quelqu'un, on le fait toujours d'abord avec discrétion. Parle avec lui seul à seul, discrètement, pas devant tout le monde. Du temps de Thérèse d'Avila, dans les monastères, on battait sa coulpe en public. Et ça a été révoqué. Parce que c'est scandaleux d'exiger qu'un frère soit reconnu pécheur devant tous. Donc, premier élément, la discrétion, même pour un péché grave, la discrétion. Ne pas étaler le péché de quelqu'un. C'est très difficile cette discrétion, parce que ça nous fait tellement plaisir de dire qu'un tel a fait un péché, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça nous déculpabilise, on se sent coupable, et quand on raconte les péchés des autres, ça nous déculpabilise. C'est pour ça que dans les entreprises, dans les sociétés, chacun raconte les péchés des autres, parce qu'il se sent comme innocenté grâce à ça. Et en fait, il ne fait que redoubler son propre péché. Il ne se sentira encore plus coupable après d'avoir dénoncé le péché des autres. Et donc, du coup, il va le dénoncer encore plus et se sentira encore plus coupable. Donc, première étape, premier élément, la discrétion, la bienveillance, le dialogue. Parle à ton frère. Demande-lui pourquoi il a fait ça. Peut-être qu'il a fait ça et que tu n'as pas compris ce qu'il a fait. Son intention était peut-être bonne, même si ce qu'il a fait matériellement te semble mauvais. Peut-être qu'il agit sous le joug de l'angoisse, de la souffrance. Cette souffrance que tu n'as pas été capable d'entendre jusqu'à présent. La graduation des moyens, le dialogue, la discrétion. Un autre élément important de la correction fraternelle, quand on commence cette correction, c'est est-ce que c'est moi qui suis chargé de le corriger, cette personne ? Suis-je chargé de la corriger ? Ai-je autorité pour cela ? Quand j'avais 5 ans, on m'a raconté que j'étais assez infernal parfois. Bon, je suis peut-être encore, mais à l'époque, j'étais peut-être encore pire. Et il y avait une nounou qui m'emmenait en promenade. Et en revenant dans le bus, j'étais infernal, comme d'habitude, et il y a une dame qui dit « Mon petit garçon, obéis bien à ta maman. » Et moi, je réponds « Je m'en fous, c'est pas ma maman. Ben, » c'est pas complètement faux. Ma maman avait autorisé sur moi, la nounou avait une autorité déléguée, donc une autorité atténuée. Alors, je vais un peu dans l'excès en disant qu'elle n'est pas d'autorité sur moi, mais à 5 ans, j'avais compris que seul pouvait me corriger ceux qui avaient autorité sur moi. Évidemment, j'avais poussé le bouchon un peu loin. La deuxième étape dans la correction fraternelle, c'est de faire appel à quelqu'un d'autre. Quand on n'a pas réussi soi-même à corriger son frère ou sa sœur, de faire appel à quelqu'un d'autre. Par exemple, dans un couple, parfois on va faire appel à un conseiller conjugal, un tiers, pour essayer de résoudre le problème. Parce que quand on est soi-même impliqué dans le péché qu'on a subi, dans la souffrance qu'on a subie, on ne peut pas être complètement objectif, parce qu'on souffre. Donc le fait de faire appel à un tiers, à un témoin extérieur, qui lui n'en souffre pas, va permettre d'avoir une certaine objectivité pour dire à chacun ses fautes et ses richesses, pour que chacun puisse reconnaître aussi ses propres erreurs. Parce que quand je pense que c'est l'autre qui est pécheur et que moi je suis innocent, forcément c'est faux. On a tous une part de responsabilité, même si l'autre peut être grand pécheur. Faire appel à un tiers. La correction fraternelle, de ce point de vue-là, ne consiste pas à être sans cesse dans l'accusation de l'autre. Dans un couple, par exemple, on est tellement proche qu'on voit quasiment tous les défauts de l'autre. Moi, je voyais ça cet été, quand j'étais avec des gens assez longtemps pendant mes vacances, ma sœur, mon beau-frère. Ben, en une journée, moi, j'aurais pu lui faire à chacun, je compte pas. Et eux, ils auraient pu m'en faire autant. Donc, s'ils révèlent à l'autre tous ses péchés en permanence, mais c'est infernal. On peut faire 10 000 remarques dans la journée. Ça devient tyrannique, étouffant. Donc, on a besoin d'un petit peu objectiver et de savoir quel est le point important sur lequel il faut intervenir. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Comme dit Thérèse, c'est comme le petit pinceau qui va corriger un petit point du tableau. Voilà. Le reste, c'est pour plus tard. Donc il faut aussi prier l'Esprit-Saint pour qu'il nous dise, Seigneur Esprit-Saint, qu'est-ce que tu veux que je corrige dans ce tableau? Et c'est toi qui corrigeras à travers moi, parce que ce n'est pas moi qui vais changer mon frère. Donc il faut aussi prier l'Esprit-Saint pour que cette correction fraternelle soit objectivée, soit par l'aide d'un témoin, soit par l'Esprit-Saint. Et Thérèse de l'Enfant Jésus disait, quand j'étais... Avant d'être maître des novices, je me disais, j'aimerais bien corriger cette sœur pour lui permettre de s'améliorer. Et une fois que je suis devenu maître des novices, je me suis dit, ouf, cette sœur, elle n'est pas novice, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Ouf, ce n'est pas mon problème. Donc, il faut chercher une certaine objectivation pour que la correction fraternelle ne soit pas juste quelque chose de subjectif. Le dernier élément que je voulais vous proposer à votre réflexion, et je m'en suis aperçu cet été avec là où j'étais chez ma sœur et mon beau-frère en vacances, c'est que la correction fraternelle exige de comprendre l'autre. On ne peut pas corriger quelqu'un si on ne comprend pas un petit peu son fonctionnement. Et je me suis aperçu que quand on est parent, je le savais déjà plus ou moins, mais cet été ça m'est paru de manière incroyable, on est appelé à résoudre des équations qui n'ont pas de solution. C'est des équations mathématiques qui n'ont aucune solution. Quand vous avez un enfant, plusieurs enfants, chaque enfant mérite d'être traité de manière personnelle, en fonction de son caractère, de ses défauts, de ses limites. Le problème, c'est que quand vous traitez un enfant de manière personnelle, différemment des autres, les autres vous disent « Mais moi, tu m'as puni à ce moment-là, lui, tu ne l'as pas puni. Moi, tu m'as demandé ça, lui, tu ne l'as pas demandé ça. » Bref, c'est une équation impossible. Parce que quand vous traitez les enfants de manière personnelle, les autres sont jaloux. Quand vous les traitez tous pareils, vous faites une erreur parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Bref, être parent, c'est un martyr et résoudre sans cesse des équations impossibles. Même le meilleur mathématicien n'y arrivera jamais. Donc, vous, parents, je prie pour vous, franchement, je prie pour vous, parce qu'à votre place, je n'arriverai pas à résoudre les choses. Mais seul l'Esprit-Saint peut finalement résoudre ces équations impossibles. Donc, je vous conseille de confier la résolution finale de vos équations par rapport à vos enfants à l'Esprit-Saint. Amen.